Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue sur Radio France Internationale. C'était Emmanuel Macron qui le disait à Marseille le 2 septembre. Notre pays a besoin de sa jeunesse. C'est Marine Le Pen qui déclarait à Fréjus le 12 septembre sa confiance en la jeunesse de France. C'est également Anne Hidalgo qui affirmait le même jour à Rouen être candidate pour offrir un avenir à nos enfants. À 7 mois de l'élection présidentielle, les candidats investissent le terrain de la jeunesse, sauf que celle-ci semble plus insaisissable et fracturée que jamais. C'est ce que révèle une grande enquête publiée sous la forme d'un livre, Événement. Son titre en dit déjà beaucoup, La fracture, publiée par les Arènes. Cette génération en pleine désillusion envers la classe politique n'en est pas pour autant moins engagée, mais c'est l'initiative individuelle qui prime désormais sur le combat collectif. Alors, qu'est-ce que les jeunes ont vraiment dans la tête? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien pour vos analyses et vos commentaires dans Dimanche Politique. Et avec Stewart Shaw, également habitué de Dimple, comme on dit en bref, vous êtes l'auteur de cet ouvrage référence, La Fracture, sous-titré ainsi « Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs ». L'IFOP a donc réactivé une très vieille enquête sur la jeunesse.
Oui, pour comprendre cette jeunesse, il faut la comparer aux jeunesses passées. Il faut avoir une profondeur historique. Et l'IFOP, personnellement, avec les Arènes, on a réactivé une enquête historique menée pour la première fois en 1957. La première enquête menée auprès des jeunes, c'était pour l'Express. Et à partir de cette enquête, Françoise Giroud a forgé le concept très connu de nouvelle vague. On le connaît pour le cinéma, pour la chanson, mais c'était d'abord pour qualifier une génération. Ça a été fait en 57, en 68, juste avant les événements de mai, en 78-88 et pour la dernière fois en 99. Et l'idée de cette jeunesse touchée mais pas coulée par ce terrible Covid, c'était de voir où est-ce qu'elle en était en réactivant des questions qui avaient déjà été posées dans les années 50, 60. Il y a bien sûr des questions qui ne se posaient pas et qui ont été posées spécialement pour cette enquête, mais c'était avoir cette carotte géologique pour tout simplement comprendre cette jeunesse des années 2020.
Bonsoir Flora Gebali.
Bonsoir.
Vous avez 27 ans, entrepreneur, fondatrice de l'agence Coalition qui prodigue des conseils à des entreprises désireuses de se transformer et vous êtes l'auteur de « Ma génération va changer le monde » aux éditions de l'Aube. De quoi s'agit-il ?
Alors, « Ma génération va changer le monde », c'est un essai que j'ai écrit cette année et qui raconte un peu, qui tente de décrypter la jeunesse. Alors, pas en chiffres comme le fait Frédéric Dabi et je suis ravie d'avoir des confirmations chiffrées à mes intuitions, donc c'est vraiment génial, mais qui décrypte, mais qui aussi propose quelque chose. Parce que notre génération, enfin celle à laquelle j'appartiens, c'est une génération qui est radicalement différente de ses prédécesseurs, notamment parce que elle a évolué avec une révolution d'ampleur, la révolution digitale, dans sa façon de travailler, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Et donc, c'est une génération qui a aussi des choses à proposer, qui a aussi des choses à dire. Et donc, j'ai écrit ce livre sur un ton très optimiste pour sortir un peu de l'habituel, génération désabusée, génération désenchantée,
dont vous parlez aussi. En ligne avec nous, Guilhem Carayon, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en droit et surtout président des jeunes les LR, les Républicains, dont les universités d'été avaient lieu voilà 2 semaines au Parc Floral à Paris. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans ce parti Les Républicains ?
Écoutez, moi je me suis engagé aux Républicains parce que je me sens républicain et patriote. Je crois vraiment aux valeurs de la République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je sais que le mot républicain a été galvaudé, tout le monde s'en est emparé, mais pas souvent du sens. Moi j'étais heureux quand Nicolas Sarkozy a choisi le nom de l'UMP pour le remplacer par les Républicains, mais je pense que maintenant il faut traduire cela idéologiquement. Moi je crois en l'indépendance et la souveraineté nationale, je crois en la méritocratie qui est pour moi la condition de la justice sociale. Je crois en l'assimilation républicaine, je crois en l'autorité de l'État qui pour moi doit pas aller sans la protection des libertés individuelles. Voilà, c'est les quelques raisons pour lesquelles je me sens républicain.
Guilhem Carayon, il a le même âge que vous, bientôt 22 ans, il s'appelle Vincent. 3 ans après son bac, il devrait piloter actuellement un Airbus, mais il doit se contenter de petits boulots. Son avenir est bouché, il considère que sa génération est en quelque sorte sacrifiée dans la période. On prend le temps d'écouter son témoignage.
J'ai un peu l'impression d'avoir appartenu à une génération sacrifiée, que ce soit moi ou mes copains. J'ai jamais eu de bol réellement depuis que j'ai commencé mes études. C'était dans les années 2015, les attentats, on était soumis au plan Vigipirate, donc pas de sortie scolaire, pas de classe de neige, pas de classe découverte, on devait faire des voyages, même à New York, ça n'a pas été fait. Au lycée, on avait le droit de sortir à l'époque, un petit peu quand on voulait, entre les cours. Bah moi, avec le Vigipirate, impossible. On était obligé de rentrer à des horaires fixes, avec un carnet, avec un contrôle à la grille. C'était un petit peu la privation de nos libertés. Ensuite, j'ai eu mon bac. J'ai fait mon emprunt étudiant pour devenir pilote de ligne. J'ai été diplômé en me disant que plus vite je finis, plus vite je vole et plus vite je rentre dans la vie active. Et le Covid est tombé. Le Covid m'a coupé les ailes. Donc du coup, comme je ne pouvais pas rembourser mes études, parce qu'il n'y a pas réellement de système qui est mis en place pour nous les jeunes, j'ai du coup trouvé des petits boulots. J'ai été serveur à Rungis très tôt le matin, vers 5-6 heures du matin jusqu'à tard dans l'après-midi. Et maintenant, je vends des téléphones dans Paris, sachant que le RSA est à 25 ans, donc avant ça, je ne touche rien. Et je vis encore chez mon papa, alors que j'aurais peut-être des envies de vouloir prendre un peu mon envol. Je ne peux finalement pas maîtriser le destin que j'avais construit quand j'étais jeune.
Quand j'étais jeune, il n'a que 22 ans. Il nous a
Ouais.
aussi parlé du Covid-19 et de la difficulté à vivre ses relations avec d'autres jeunes, à l'école, à cause du travail à distance, du confinement qui empêchait les moments de convivialité, de rencontres. D'ailleurs, Frédéric Dabi, l'enquête de l'IFOP a mené donc auprès des 18-30 ans, a eu lieu durant le premier confinement. Alors, est-ce que le Covid a eu raison de cette génération ou est-ce que le mal est plus profond, plus antérieur?
Oui et non. En tout cas, ce que nous dit Vincent est très représentatif de ce que j'ai vu dans cette enquête. C'est vrai que Vincent a raison de pas seulement parler du Covid, mais le réinscrire dans une succession de chocs que la jeunesse a connu. Le choc terroriste, le profil des victimes du 13 novembre sur les terrasses, ce sont des jeunes, des 18-30 ans, des 18-40 ans. Il a parlé de Vigipirate, il a raison. Entrave à la circulation, il y a le choc climatique, et c'est vrai, sur des indicateurs historiques des années 50 dont je parlais tout à l'heure, le sentiment d'être heureux s'est effondré, un effondrement du bonheur, 27 points de moins par rapport à 1999. Le sentiment, comme le dit un peu Vincent, de vivre dans une époque, une période maudite, est-ce qu'on a de la chance de vivre dans cette période? 40 points de moins, plutôt 36 points de moins par rapport aux années 90, 20 points de moins par rapport aux années 60, et c'est vrai que le Covid a parachever le tout. Maintenant, je respecte complètement le témoignage de Vincent qui est extrêmement représentatif. C'est en fait sa vie. Il a l'impression de plus maîtriser son destin. C'est ce que nous disent les jeunes. Ils ont moins le sentiment, 25 points de moins par rapport aux années 60, d'influencer le cours des choses. Alors que qu'est-ce qui fait le cœur d'un engagement, politique ou pas, c'est peser sur le cours des choses. Mais c'est vrai que l'enquête montre aussi, et je pense que Vincent va rebondir, j'en suis sûr, qu'on ne peut pas réduire cette génération ad Covidum. Ce n'est pas la génération Covid. On ne peut pas l'assigner au Covid. Elle reste résiliente, optimiste, elle se projette dans l'avenir, mais mon Dieu, que de chocs connus depuis ces dernières années, à la différence d'autres générations. Les années 80, que moi j'ai connues comme jeune, on avait le sida, le chômage, on parlait des TUC, des petits boulots, on parlait des nouveaux pauvres, mais il y avait un idéal, il y avait une croyance. Et c'est intéressant que Guilhem Carayon soit avec nous, en la capacité du politique à changer les choses, à transformer la vie. C'est ce désenchantement que reflète le discours de Vincent.
Vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit, Flora Gabali?
Bah c'est vrai qu'on est la génération héritière des crises. Alors je remonte encore un tout petit peu plus loin. Moi un jour, donc génération 89, post-chute du mur de Berlin. Moi un jour à l'école, au lycée, on m'a expliqué que c'était la fin de l'histoire, cette théorie fumeuse de Fukuyama,
ouais.
Qui en fait semi-propagande, mais présente dans les livres d'histoire à mon époque, peut-être qu'elle l'est plus maintenant. On nous expliquait que de toute façon, l'hyperpuissance américaine avait gagné et que c'était la fin du monde. Et c'était déjà une lecture qui m'avait paru extrêmement fausse, alors que j'étais en première ou en terminale à l'époque, parce qu'elle était extrêmement déconnectée. Et pareil, le récit politique, le récit médiatique, et d'ailleurs notre ami militant politique qui est là, qui va réagir juste après, nous dira ce qu'il en pense. Mais moi, le discours qui vient de nous servir, que je viens d'entendre, je ne sais pas quel jeune se retrouve à l'intérieur. Et moi aussi, j'ai été militante politique à une époque et j'en suis partie parce que personne n'adhère, personne n'achète ce discours. Et en fait, il y a un problème de déconnexion des générations qui fait que non seulement on n'est pas représenté, mais ça, à la limite, on pourrait considérer qu'une forme d'expérience est nécessaire pour être représenté, représentatif, dirigé. Mais on ne parle plus la même langue, donc c'est quand même un problème, c'est qu'on ne on ne se sent pas concerné. Non seulement on n'est pas représenté, mais en plus on ne se sent pas concerné. Donc effectivement, c'est un problème de taille.
Avec quel état d'esprit vous avez travaillé là-dessus, Frédéric Dabi? Ce qui ressort, c'est que il y a un grand individualisme chez ces jeunes?
Oui, le Covid n'a rien créé, mais il a amplifié une tendance à la défiance vis-à-vis du paradigme collectif. Alors derrière ce mot jargonneux, il y a la défiance vis-à-vis de tout ce qui est collectif, l'État, les partis politiques, les institutions. Et au contraire, il y a cette idée que pour faire avancer les choses, seul compte l'action individuelle. Parce que, et ce que dit Flora Gabriel est très intéressant, il y a un doute sur la représentation, sur un système représentatif. Qui mieux que moi peut faire avancer une cause, par exemple la cause environnementale, quand on voit que les politiques n'ont pas su résoudre ces problèmes. Et puis, il y a un doute, c'est exactement ce que vous dites, et on a un verbatim, on n'a pas que des chiffres, on a un verbatim qualitatif, où on nous dit, est-ce que les personnes qui veulent me représenter, à qui je vais déléguer mon pouvoir à travers un vote, peuvent saisir la singularité d'une jeunesse insaisissable.
Guilhem Carayon, je rappelle que vous êtes le président des Jeunes Républicains. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui compte sur elle-même? Est-ce que vous êtes l'exception à la règle, puisque visiblement vous voulez intervenir et œuvrer pour les autres?
Écoutez, moi j'ai trouvé le témoignage de Vincent très intéressant. Je pense que ma génération est une génération fracassée. Ma génération, c'est celle des facs fermées, des cours en distanciel, où les jeunes ont été enfermés pendant des mois dans des logements crous de 9 mètres carrés, sans aucun lien social, avec leurs proches, leurs amis et même leur famille. Ma génération, c'est celle des petits boulots, mal payés, balayés par la crise. Je rappelle qu'il y a un étudiant sur 5 qui a perdu son travail pendant la crise. Il y a un étudiant sur 6 qui a eu des pensées suicidaires. Ma génération, c'est celle qui... de l'absence d'horizon professionnel. Les stages ont disparu, les premiers jobs sont... extrêmement dur à trouver. Et voyez, cette génération qui n'a plus de rêve, cette génération désenchantée, aujourd'hui, elle se réfugie dans l'abstention car elle ne fait plus confiance aux politiques pour résoudre son malaise. Effectivement, il y a une grande partie de la jeunesse qui s'est détournée de toutes les formations politiques. Les jeunes, ils veulent plus la politique politicienne. Ouais, ils ne croient plus au rôle des partis.
On va y venir, Guilhem Carayon,
surtout,
justement.
Ils reprochent aux partis de ne plus débattre sur les idées.
En tout cas, cette jeunesse, vous le disiez à l'instant, a boudé les urnes à tous les scrutins depuis 2017 avec un record d'abstention aux dernières élections régionales. 82% des moins de 35 ans n'ont pas participé. Elle est donc désenchantée, pour reprendre le terme de Guilhem Carayon, Frédéric Dabi, désenchantée par rapport à l'offre politique, par rapport à la démocratie peut-être même.
Alors,
tout court.
C'est pas tout à fait l'offre politique. C'est vrai qu'on est dans un cycle abstentionniste jamais vu, qui touche aussi l'ensemble des Français. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on n'a pas une élection, alors 49,5 aux élections européennes, mais il n'y a pas une élection où l'abstention n'a pas été le premier parti de France. Et c'est vrai que c'est particulièrement fort chez les jeunes, alors que il n'y a pas de fatalité d'abstention des jeunes. Dans ce livre, avec Siward Chou, on fait un rapide récit de l'histoire de la participation des jeunes à l'élection présidentielle. Il est arrivé quand ça valait le coup, quand on avait le sentiment qu'on était sur une élection de rupture, de changement, que les jeunes votent massivement, autant voire plus que les autres Français. 91, 95, 2007, c'était l'apogée d'une très forte participation. Et c'est vrai que les jeunes sont allés de désillusion en désillusion. C'est moins l'offre politique qu'une logique que j'appelle de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est inutile parce que ça ne change pas la vie. Et là, on est à 6 mois et demi d'une élection présidentielle. On anticipe une abstention très forte chez les jeunes. Je serais quand même prudent. Ils croient encore à la magie présidentielle, en la capacité du politique de changer les choses, dans un contexte où les candidats d'Emmanuel Macron aux candidats de droite, d'Anne Hidalgo à Marine Le Pen, parlent énormément aux jeunes et ça pourrait avoir un impact. Mais c'est vrai que cette logique d'inutilité du vote et par là, comme vous le disiez, Philippe, d'un doute sur la démocratie représentative parce qu'elle n'est plus efficiente pour faire avancer les choses au profit d'actions peut-être plus radicales, pourrait miner la participation.
Flora Gebali, vous y avez cru à la politique. Vous avez fréquenté l'Élysée au service presse, avant de rejoindre la fondation La France s'engage, lancée en 2014 par François Hollande. Et vous avez été candidate sur la liste d'Agnès Buzyn aux dernières municipales. Vous en êtes revenue ?
Alors non, pas du tout. J'y ai cru et j'y crois encore. Et évidemment, sinon ça ne ferait pas de moi... une démocrate, enfin une membre, une citoyenne de mon pays active que je suis. Par contre, effectivement, le problème, il s'accroît. Moi, je prendrais pas le pari que la jeunesse va s'abstenir à cette élection présidentielle qui arrive, parce qu'il y a quand même un débat démocratique, un débat politique qui est très riche et très intéressant. Là, on le voit depuis la rentrée de septembre, ça n'arrête pas. Il y a plein de candidats qui ont des choses à dire très différentes, qui ont des idées. Donc, je suis assez contente de cette rentrée politique d'un point de vue citoyen, parce qu'il se passe quand même des choses. Et c'est intéressant. Moi, je crois que les femmes et hommes politiques n'ont pas forcément pris la mesure de, alors le mot radical est galvaudé ces jours-ci, mais de la radicalité, de l'ampleur des changements qu'il faut mettre en œuvre. Et quand on entend les uns et les autres, tous les témoignages, c'est de dire en fait ça suffit, c'est pas des changements à la marge qui vont changer ma vie. On a besoin de repenser quand même notre modèle. On a besoin quand même d'avancer. Et c'est pas radical de penser ça parce que la transformation, enfin la crise écologique, c'est une réalité scientifique. Et en fait, les jeunes, c'est très dur d'être mis en minorité comme si on avait des convictions très fortes parce qu'on défend la transition écologique, alors que c'est simplement écouter des scientifiques. Donc on a l'impression d'être les rationnels du débat et que les aînés, nos aînés, nous traitent d'irrationnels alors que nous, on leur met juste les rapports du GIEC, on leur met juste des rapports scientifiques devant leurs yeux.
Le GIEC, c'est sur le climat et l'environnement, on en reparlera tout à l'heure. Les aînés, justement, Guillaume Carayon, vos aînés, c'est Valérie Pécresse, c'est Xavier Bertrand, ce sont d'autres. Vous avez l'impression que ce que vous vivez, ce que vit la jeunesse aujourd'hui, ils le prennent en considération?
Je pense que les jeunes reprochent aux hommes politiques de penser souvent à leur intérêt individuel, à leur carrière personnelle plutôt qu'à l'intérêt général, à l'intérêt du pays. Et vous voyez, face à cette incapacité collective de la classe politique à intéresser les jeunes et les remettre sur le chemin du vote, moi je vois quand même un espoir parce que les jeunes, ils gardent des aspirations très fortes pour la politique. On l'a vu pour le climat où on se souvient de dizaines de milliers de jeunes qui étaient venus défiler dans les rues. Les jeunes avaient été nombreux aussi à manifester pour défendre les valeurs de la République après les attentats islamistes qui avaient été commis sur notre sol. Donc moi, je suis convaincu qu'on ne doit pas laisser les gens désespérer ou même espérer dans le vide. Et l'esprit que je veux insuffler aux républicains, aux jeunes républicains, c'est celui d'un nouvel espoir pour la jeunesse. Une jeunesse qui est en perte d'identité, en perte de sens, qui voit son pays décliner dans tous les domaines. On peut parler d'un déclin économique et industriel avec une précarité étudiante qui a atteint des sommets pendant la crise sanitaire. Moi, je me souviens des files interminables de jeunes qui avaient plus de quoi manger et qui se rendaient à des distributions alimentaires. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au travail colossal des associations qui, souvent montées par des étudiants, sont venues en aide à tous ces étudiants dans le besoin et ont fait un travail formidable.
Mais je suis désolée. Je respecte tout ce que vous dites et je trouve que vous avez partiellement raison, Guillaume Carayon, mais c'est pas un discours d'un jeune de 22 ans. C'est, en fait, pour faire de la politique aujourd'hui, soit on accepte d'épouser les codes et les mots et les discours de la politique, comme vous le faites très bien d'ailleurs, avec talent, soit, en fait, on est hors du discours. C'est quand même bizarre. Je trouve qu'il y a un manque de...
Moi, je pense que l'enjeu de la jeunesse, c'est aujourd'hui de rentrer dans les partis politiques, de rentrer dans les mouvements politiques et de changer leur fonctionnement. Aujourd'hui, il y a plus de débat dans les partis politiques.
Excusez-moi, Guilhem, ce n'est pas ce que nous disent les jeunes. Alors, c'est tout à fait respectable. C'est une ambition louable. Mais au contraire, ce que montre l'enquête, et il n'y a pas que l'enquête, il y a ce que nous voyons sur le terrain et ce qu'on montre dans le livre, c'est que pour les jeunes, dans leur énorme majorité, la solution ne vient plus du politique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'iront pas voter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont dépolitisés ni désengagés. Ils ont trouvé leur enjeu, qui est l'enjeu de l'environnement, l'enjeu climatique. Ils sont 72% à se dire engagés, mais chacun selon son niveau. Et ce qui est terrible, parce que cet enjeu climatique, c'est un enjeu d'urgence pour eux. C'est un enjeu où ils ont confiance de leur vulnérabilité. Et c'est un enjeu qui les rend fous de colère, dans le sens où ils ont l'impression que les politiques, quasiment tous, y compris les écologistes, ne pensent cet enjeu que comme à venir, que comme devant être traité. Et il y a cette procrastination qui les pousse à déserter les structures collectives. Mais c'est un enjeu pour vous, j'imagine, de les faire venir.
Et moi, j'ajoute un truc pour les auditeurs qui nous écoutent. Quand on parle de jeunesse, attention, on fait pas de jeunesse. Enfin, pour moi, la jeunesse n'a pas d'âge. Enfin, même si votre étude est sur... Et en fait, moi, j'ai rencontré des personnes formidables qui sont très engagées, qui sont totalement en phase avec la société et qui ont tous les âges. Et parfois, je le dis pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on n'est pas en train de faire du jeunisme et de dire les jeunes ont tout compris et leurs aînés ne comprennent plus rien, donc laissez-nous la place, dégagez, pas du tout. C'est plutôt une question d'être en phase avec les réalités qui nous touchent tous, notamment, au premier chef desquels, la transition écologique qu'on doit conduire, et ne plus être en phase comme ça peut être le cas à n'importe quel âge.
Guilhem Carayon.
Moi, je suis dans un parti politique dans lequel, et je pense que c'est le cas de tous les mouvements politiques, dans lequel les sujets qui intéressent les jeunes, les thématiques qui intéressent les jeunes, c'était souvent les aînés du parti qui se les appropriaient et qui fournissaient des propositions là-dessus. Moi, en arrivant à la tête des Jeunes Républicains, il y a quelques mois, en avril, ce que j'ai dit au président de mon parti, Christian Jacob, c'est que je voulais que sur l'ensemble des thématiques qui intéressent la jeunesse, c'est-à-dire les questions d'emploi des jeunes, les questions de précarité étudiante, les questions d'insécurité qui touchent principalement les jeunes, les questions environnementales, la question de la lutte contre le dérèglement climatique, sur toutes ces thématiques-là. Je voulais que ce soit les jeunes républicains, le mouvement de jeunesse des républicains, qui fournissent des propositions pour l'élection présidentielle. Et vous voyez, ça porte ses fruits, parce qu'aujourd'hui, on a fourni un livret avec 16 propositions qui ont été reprises intégralement par les républicains. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en réalité, quand vous pénétrez dans les partis et que vous arrivez à vous imposer parce que des jeunes sont élus, parce que des jeunes arrivent à prendre des responsabilités, vous arrivez à changer leur fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer la vie politique de notre pays. Il faut pénétrer dans les instances et il faut changer ce qui ne va pas et réparer et à travers ça fournir des propositions qui intéressent les jeunes.
Frédéric Dabilly.
Non, je comprends votre démarche. C'est une démarche structuraliste qui a fait ses preuves par le passé. Il y a eu une génération de jeunes socialistes avec François Mitterrand qui ont pris le pouvoir. Même chose avec Nicolas Sarkozy. Plus près de nous, la génération des jeunes maires du côté de l'UMP au moment du raz-de-marée. Mais c'est vrai que la plupart des jeunes ne souhaitent, sachant que vous en avez, j'ai entendu récemment Christian Jacob dire que le nombre des jeunes populaires, enfin des jeunes des Républicains, a été multiplié par 4 en quelques mois. Vous avez réussi, mais ça reste... Oui, voilà, ça reste quand même un chemin que ne souhaite plus emprunter une majorité de la jeunesse. Et là où elle est peut-être en décalage un peu avec vous, elle ne fait pas un tableau si noir de leur situation. Il y a une vraie résilience qu'on a vue dans l'enquête et dans des témoignages de terrain.
Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, c'est le titre de votre ouvrage, Frédéric Dabilly, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Rapidement, que votent les jeunes aujourd'hui? Avant, quand on était jeune, on votait de gauche. On votait à gauche, maintenant c'est plus du tout le cas.
Ça dépend de quelle jeunesse on parle, les 18-24 ans ou les 25-30 ans. Les 18-24 ans, ce sont les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois à l'élection présidentielle. Très clairement, ils sont plutôt sur un vote Emmanuel Macron et un degré moins de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, est plutôt sur un vote Marine Le Pen et un vote protestataire. La droite républicaine est plutôt en perdition vis-à-vis de la jeunesse. Le dernier candidat de droite qui a surperformé chez les jeunes, c'est Jacques Chirac en 95. Faut pas oublier qu'en 2007, Nicolas Sarkozy était devancé par Ségolène Royal, mais il a quand même emporté largement. C'est ça qui est très intéressant. Il y a peu de jeunes. Il y a 5 millions de 18-24 ans, un peu moins de 8 millions de 18-30 ans. Si les hommes politiques étaient cyniques, ils diraient que c'est pas une clientèle électorale importante, mais ils la traitent, ils la surtraitent, ils la surinvestissent parce qu'ils ont compris que c'est la génération phare, c'est la génération qui a des parents, des grands-parents et qui va peut-être diffuser son point de vue.
Oui, parce qu'en tant que tel, l'électorat jeune, il n'est pas majoritaire.
Et c'est alors, aux élections intermédiaires, ils sont cyniques parce que, par exemple, les stratégies électorales dans les partis politiques, moi je l'ai souvent vu, c'est d'investir à fond sur les seniors parce qu'on sait que les seniors votent, on sait qu'ils vont se mobiliser, qu'ils vont lire les courriers qu'on va leur envoyer.
Maintenant, je vais nuancer, jamais, on fait une sorte d'histoire des votes à la présidentielle des jeunes, jamais les jeunes n'ont emporté la décision électorale. Mais là, Philippe, dans le contexte que l'on connaît de morcellement extrême du champ présidentiel, où on sent que le ticket d'entrée pour le second tour peut être très bas, où on se souvient qu'un candidat Fillon a perdu de moins de 300 000 voix, un candidat Jospin a été éliminé de 2 voix par bureau de vote, oui, investir la jeunesse, et c'est ce qui se passe du côté de la plupart des candidats, y compris le président candidat ou le candidat
en étant
président.
Chez McFly et Carlito,
voilà,
par exemple.
C'est pas que ça, c'est aussi une offre programmatique très forte destinée aux jeunes, parce qu'il y a des croyances magiques dans le champ politique, qui sont que les jeunes, parler aux jeunes, c'est parler à leurs parents, à leurs grands-parents, c'est que les jeunes peuvent permettre de comprendre la société, qu'ils diffusent des bonnes pratiques. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une présidentielle? C'est valoriser la France, être dans une logique de projection. Et quel est le segment qui se projette le plus? Ce sont les jeunes.
59% des moins de 30 ans envisagent un vote pour Marine Le Pen par adhésion et non par rejet. Ça peut paraître surprenant. Est-ce que ça met en avant l'idée de l'autorité? L'autorité, apparemment, les jeunes, dont on pourrait penser qu'ils sont réfractaires à l'autorité, finalement, la recherche, c'est ce qui ressort de votre étude.
Oui, il y a un chapitre sur les valeurs des jeunes. On voit que les valeurs des jeunes, mais également le vote des jeunes, s'est homogénéisé avec celui du grand public. On a des valeurs assez traditionnelles. Et c'est vrai que l'autorité n'est plus un gros mot chez les jeunes. On n'est plus dans la nouvelle vague qu'on avait mesurée dans les années 50, 60, où il y avait une guerre des générations sur la figure par rapport aux figures autoritaires, familiales ou sociétales. C'est vrai que ça va de pair aussi, et Guilhem Carayon en parlait, d'une montée de la préoccupation sécuritaire chez les jeunes.
Justement, Guilhem Carayon, vous regrettez qu'il n'y ait pas un chef qui s'impose chez vous, aux Républicains ?
Bah écoutez, non, il n'y a pas de leader naturel qui s'est dégagé depuis quelques mois. Christian Jacob est arrivé à la tête des Républicains en 2019 en disant qu'il ne voulait pas être candidat à la présidentielle. Donc on savait qu'il y aurait un processus de départage, que ce soit un candidat naturel qui arrive à émerger d'ici là, ou une primaire ou un congrès qui nous permettrait de trouver un candidat. Aujourd'hui, la solution, c'est de laisser le choix aux adhérents qui, aujourd'hui et demain, auront la possibilité de choisir entre une primaire ouverte, c'est-à-dire aux sympathisants des Républicains et aux adhérents, ou alors un congrès seulement ouvert aux adhérents des Républicains pour choisir leur candidat. Donc oui, il n'y a pas de candidat naturel, et donc on doit faire émerger un candidat qui ensuite créera une dynamique autour de lui.
En tout cas, la jeunesse est moins politisée, on le voit, mais elle reste engagée, exit les syndicats, les partis politiques qui ne suscitent plus d'appétence, mais elle s'intéresserait donc plus à des causes qu'à un projet politique global. Ça veut dire qu'il y a, par exemple aujourd'hui, il y avait des milliers de jeunes militants qui sont mobilisés dans plusieurs dizaines de pays pour réclamer une action urgente contre le dérèglement climatique, à 5 semaines de la COP26, et à Berlin, la militante écologiste Greta Thunberg a dit que les partis politiques n'en font pas assez. Alors, les jeunes, ils s'en occupent comment? Comment est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui? On va prendre l'exemple de l'environnement. Frédéric Dabi.
Oui, alors, ils sont sur une logique individuelle, on l'a dit, hein, c'est une ode à l'action individuelle, même si on a vu des grandes manifestations, des grands mouvements sur le climat, mais il ne faut pas oublier, cette jeunesse, elle a une mémoire différente des jeunesses que nous avons connues, Philippe. Elle n'a pas connu des grandes victoires liées à des mobilisations sociales. Elle n'a pas connu 95, elle n'a pas connu 2006, la victoire au moment du CPE, elle n'a pas connu 86, le retrait de la loi de Vaquet. Donc, elle est plutôt sur une action individuelle avec deux barrière. Premièrement, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le discours, il est trop tard. Elle n'y croit pas parce qu'elle pense que par une politique des petits pas, elle peut faire changer les choses. Et elle peut. On n'est pas sur une guerre des générations. D'ailleurs, on n'est nulle part sur une guerre des générations. Parfois, c'est pire. On ne se comprend pas, comme vous le disiez tout à l'heure, Flora Gebali. Mais on peut faire avancer les choses par petits pas. Deuxièmement, ils ne sont pas sur une logique que j'appelle « messieurs les Anglais, tirez les premiers ». C'est-à-dire, il est trop tard. C'est aux Chinois, aux Américains, aux Russes de faire des efforts. Mais c'est vrai que sur l'enjeu environnemental, c'est un enjeu qui peut les mettre en colère. Moi, je suis frappé de voir. Il y a plus de jeunes qui déclarent être prêt à mourir pour le climat, c'est bien sûr du déclaratif, qu'être prêt à mourir pour la France.
Mobiliser pour l'environnement, la jeunesse, il y a aussi la culture woke, c'est-à-dire l'éveil face aux injustices venues des États-Unis. Vous reconnaissez dans cela, Flora Gebali?
Bah alors, ça dépend ce qu'on appelle woke. La définition Larousse, je ne sais pas si c'est dans Larousse, mais la définition officielle, c'est d'être éveillé et d'être conscient des sujets de société écologique qui nous entourent. Auquel cas, oui, je le suis et j'espère que vous l'êtes aussi. La définition importée par toute forme de radicalité française, je m'y reconnais plus ou moins puisqu'il n'y a pas de définition formelle. Par contre, je crois que ma génération, ce qu'elle a compris dans son engagement écologique, c'est qu'il y a une convergence entre l'engagement individuel et la transition planétaire. Et à la différence de ses aînés, et c'est ce que vous confirmez d'ailleurs Frédéric Dabi dans le livre, à la différence de ces aînés où on pensait que voter pour les bonnes personnes, enfin les personnes qui représentaient nos idées, permettrait d'avoir des solutions concrètes, là, elle pense que c'est pas tellement par le vote, c'est plutôt par le changement individuel, qu'il y a une convergence entre si moi, je fais des choix de carrière écologiste, donc je ne vais pas travailler chez le pollueur, si moi, je suis conscient dans ma vie autour de moi, alors c'est comme ça, c'est avec cette conscience globale qu'on va réussir à changer les choses d'un point de vue écologique. Et ça, j'y adhère totalement. Donc si c'est ça, être woke, je vous dis oui.
Frédéric Dabi, une dernière chose. Ces jeunes, ils sont impatients, ils veulent tout de suite. L'avenir, c'est pour eux, en tout cas, c'est pas à venir.
Oui, ils se projettent fortement. C'est en ça que je nuance le fait que ce soit une génération Covid. C'est une génération aussi premier jour du reste de ta vie. Hein. Ils sont 92% à dire j'ai beaucoup de choses à accomplir. La vie va m'offrir beaucoup de choses. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit Flora Gebali sur le wokisme. C'est peut-être là où la fracture est la plus forte entre le grand public et les jeunes, puisque ils ne sont pas woke, ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils font du wokisme sans le savoir, à savoir la défense des minorités et le sentiment qu'il y a des injustices systémiques. Ils sont quand même 4 sur 10, c'est-à-dire qu'il y a un racisme d'État, et 4 sur 10 qu'il y a un privilège blanc.
Et c'est à retrouver dans La Fracture, écrit avec Stewart Shaw, aux éditions, rappelez-nous l'édition dans laquelle...
Les arènes.
Et je signale également le vôtre, hein, Flora Gebali. Ma génération va changer le monde, c'est aux éditions de l'Aube. Merci Guillaume Carayon d'avoir été en ligne avec nous. C'était le débat du jour réalisé ce soir par Laurent Philippot. Vous écoutez Radio France Internationale.
Des artistes, du théâtre, de la